Oula, ça a l'air saine. Bonjour. On est là pour parler de biodiversité dans le plateau biodiversité. Et nous sommes avec François et Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Jean-Luc, ah ça y est, on m'entend. Sulpicien depuis 86. Et très engagé au niveau nature et biodiversité sur différentes thématiques. Mais on abordera ça plus en détail.
Alors moi, je suis André Jean, française. Je suis habitant de Saint-Sulpice. Et ma foi, je participe au groupe jardin de Jean-Luc. Je m'intéresse à un petit peu ce qui se passe. Et je m'investis aussi, rien à voir avec la biodiversité, encore que, au niveau d'une association des arbres et des papiers qui vient en aide aux demandeurs d'asile.
Ouais, et bien François, donc association des hommes et des arbres, par exemple, il faut entendre humain, hein, humanité au pluriel, et du coup, charpentier chargé de projet. Voilà, donc on conçoit et on réalise des projets plutôt en bois et avec des fibres et des fois un peu de terre. Voilà, avec différents partenaires depuis 15 ans maintenant.
Alors avant d'arriver là, je suis venue vous voir, Jean-Luc, André Jean et François. Et François, tu te demandais un peu pourquoi la biodiversité, mais je pense que tu peux faire un lien quand même, ou j'imagine, pourquoi est-ce que ton travail, ou comment est-ce que toi, tu es en lien avec la biodiversité ?
Et ben oui, non, ça c'est sûr, en lien quotidiennement, quoi, parce que je travaille le bois, donc le bois c'est un matériau, mais il vient des arbres d'abord, c'est d'abord des milieux, c'est bête à dire, mais en fait c'est tellement oublié dans la profession, en fait dans tout le monde de la construction, le bois c'est une entité complètement abstraite, mobilisable visiblement sans limite et à merci et ad vitam aeternam, mais en fait on oublie de dire que c'est d'abord des arbres qui sont des êtres vivants, qui servent à tas de choses et dans lesquels il se passe plein de choses, et puis qu'on extrait de milieux au pluriel. Hein. On pense à la forêt, mais pas que. Il y a le bocage, les espaces verts, les parcs et jardins, et l'infinité d'autres endroits, quoi. Et donc, du coup, comme dans notre logique dans l'association, c'est de partir de la ressource pour aller jusqu'à la fin du projet monté, on commence vraiment dans ces milieux au pluriel, justement, précisément. Donc, le rapport quotidien à la biodiversité, il est pendant les périodes de collectage qui sont l'hiver et l'automne, plutôt le milieu forestier, en tout cas arboré. Et puis après, tout du long du chantier, on y est aussi quand même, entre guillemets, confronté. En tout cas, on voit des tas de choses avec les techniques qu'on utilise, quoi, clairement.
Et tu connais la forêt de Liffré, la forêt qui est juste à côté
de Saint-Sulpice ? La forêt de Rennes ? Ouais, carrément un petit peu quand même, quoi. On a pu y travailler un petit peu, on a pu avoir des projets. Je connais un petit peu l'ONF, ouais, un petit peu.
Carrément. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as observé dans cette forêt ?
Beaucoup de choses.
Bah, là, c'est politique, indirect. Quelque chose qui est marquant, quelque chose que tu aurais envie de dire aux...
Des choses marquantes, il ouais, y en a plein. Hein. C'est un milieu qui est bousculé, en fait. C'est un milieu qui est pluriel, qui se redéfinit. Moi, ce qui me viendrait spontané, en parole libre aussi, c'est de dire, en tant que personne qui est rattachée au milieu de la forêt, historiquement, dans mon histoire personnelle depuis l'enfance, et qui ayant grandi à côté, dans un HLM, mais en face d'une forêt domaniale, l'ONF, c'est quelqu'un, enfin une entité, c'est pas quelqu'un, c'est une entité faite de pleine d'individualité que je côtoie de différentes manières depuis quelques décennies maintenant, et pour laquelle il faut garder d'ailleurs une vision plurielle, c'est quelque chose de très complexe. Et ce que je vois, c'est que même eux, aujourd'hui, parce que c'est les gestionnaires de la fameuse forêt que tu mentionnes, en grande partie en tout cas, il y a plus de public que de privé dans cette forêt-là, qui elle-même est bousculée par les changements et qui questionne ses pratiques et l'avenir de la forêt et de sa gestion ou de ses gestions, quoi. C'est ça que ça m'évoque à l'instant T, quoi. Sans développer, parce que c'est un gros sujet, mais c'est ça que ça m'évoque. Ouais, un bousculement et des questions, quoi.
Et Jean-Luc, comment est-ce que tu t'inscris, toi, dans la biodiversité sur ce territoire ?
J'essaye d'être engagé le plus possible sur le territoire et sur Saint-Sulpice-la-Forêt, donc en animant une section Envie de nature. Envie en deux mots d'ailleurs, hein. Il y a l'envie mais il y a aussi la vie, nature. Et donc depuis 7 ans j'essaye d'y arriver du mieux que je peux en mettant en avant le jardin naturel, la biodiversité, et voilà, et on essaye d'avoir nos bons conseils les uns les autres et notre savoir-faire. En même temps, j'ai réussi à on va dire, à aller sur un GT biodiversité au niveau de la commune. Hein,
qu'est-ce qu'un GT biodiversité?
Un groupe de travail biodiversité composé à la fois d'élus et de citoyens. Et merci à la municipalité d'avoir ouvert sa porte et de nous avoir permis à quelques citoyens d'avoir un peu des idées et de cogiter un petit peu sur l'avenir à Saint-Sulpice au niveau biodiversité et tout. Je fais partie aussi de jardins partagés sur la commune. Et donc voilà, on essaye là aussi de faire du jardinage au naturel. C'est même pas essayé, d'ailleurs on le fait à plus de 100%. On a mis en place des haies naturelles faites de branchages. C'est du zéro pesticide bien sûr. Et voilà, c'est du sol vivant. On bouscule le moins possible le sol et on le respecte. Donc voilà, donc, et je fais partie de la LPO. Donc faut savoir que tout ce qui est nos jardins, refuges LPO, c'est un espace de biodiversité protégé, mais à fond, c'est des kilomètres carrés qui sont bien plus que des fois certaines zones protégées. Si on fait le cumul de tout ce qui est espace LPO et refuge, c'est énorme. C'est énorme. Au moins, ce sont des espaces où il n'y a pas de pesticides et, voilà, et on respecte le vivant.
Ça me fait penser, on pourrait dire Saint-Sulpice, les forêts. C'est un petit peu quand on se balade dans le coin, il y a plein de parcelles, il y a une zone nature à 2000, il y a une zone protégée, il y a des espaces qui sont très, enfin voilà, pour faire du bois, de l'agroforesterie. Il y a des endroits où il y a des chênes bicentenaires et d'autres où il y a d'autres essences. Et moi, je me posais aussi la question, si tu es là depuis 86, tu dois avoir une bonne vision d'ensemble de l'évolution de la biodiversité. Est-ce que tu vois, là, avec tout ce qui se passe, cette université du printemps, tous ces habitants et habitantes qui se préoccupent du présent et du futur du village, est-ce que tu vois aussi, des espèces qui reviennent ou des cercles un petit peu vertueux. On peut parler des choses qui vont mal, mais aussi des choses qui vont bien.
C'est vrai que quand on commence vraiment à observer et à poser un regard des plus attentifs sur tout ce qui nous entoure, sur le vivant, il y a l'humain, mais bon, nous, on fait partie de la biodiversité et on n'est pas l'humain, celui qui respecte le plus la nature. Malheureusement, on détruit. Et donc, du coup, plus on le respecte, meilleur c'est. Et donc, oui, on observe des choses, mais si on est attentif, et dans notre vie de tous les jours, malheureusement, on peut ne pas savoir ou ne plus savoir regarder ce qui nous entoure. La petite salamandre, les oiseaux qui font des cuicuis partout, savoir écouter, savoir regarder. Mais non, je pense que Saint-Sulpice reste un milieu assez protégé, on le respecte, c'est du zéro phyto, on n'abat pas d'arbres, on essaye de développer un peu tout ça. Et nous, je peux, moi, mon humble petit niveau est une force de proposition. Voilà, et donc, on participe à tout ça. Mais alors, j'arrête pas de dire aussi qu'il faut que, même si on préserve l'existant depuis des décennies, il faut qu'on plante, qu'on replante, qu'on continue de planter et d'accentuer un petit peu tout ça. Entre le moment où on met un petit arbre dans la terre, le moment où il s'épanouit, comme le tilleul, ça met des années, des décennies. Donc, il n'y a pas de temps à perdre.
Pour parler du vivant. Moi, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a l'observation de ce qu'il y a autour de soi, mais il y a aussi des particularités d'espèces qui vont, moi, me faire remarquer aussi autour de moi ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, savoir que telle espèce fait telle chose et que ou alors des combinaisons dans un écosystème, c'est-à-dire comment est-ce que deux espèces cohabitent, qu'est-ce que ça fait sur l'environnement ou sur l'écologie. Est-ce que vous avez, vous, des particularités comme ça à partager sur des espèces qui vous tiennent à cœur?
Alors c'est vrai que quand j'ai commencé à participer à cette fabrique du village, il y a eu des réunions avec la prog élémentaire, on a abordé l'urbanisme, le vivant, et j'ai découvert un article via la LPO sur une commune, Langon, qui avait mis en place un village pour les hirondelles. J'ai dit, oh là, c'est une idée qui est vraiment sympa. Hein, et donc, pourquoi pas lancer ça à Saint-Sulpice ? Et ça a été retenu par les municipalités. Et une convention vient d'être signée début 2025 avec tout un partenariat LPO et toute une dynamique au niveau des hirondelles, qui est un animal. L'hirondelle fait le printemps et puis c'est un oiseau migrateur. Et il faut le protéger parce que c'est une espèce qui est menacée.
Et c'est quoi les particularités d'une hirondelle, des hirondelles, par exemple ? De quoi elle a besoin comme
Elle a besoin de nids pour nicher. Hein, c'est un oiseau migrateur, donc il revient toujours aux mêmes endroits. Là, on a un lieu très, très, qui est repéré par les hirondelles et les martinets. Et donc, du coup, tous les ans, elles reviennent rue de la Grange. Hein, et elles refabriquent des nids si besoin. Elles reviennent dans les mêmes nids, ou le nid d'à côté. Mais donc, du coup, c'est vraiment l'endroit où elles viennent là. Et elles ne vont pas tarder à arriver. Hein. Le printemps n'est pas loin. Mais elles ne sont pas encore arrivées.
Là, ce qu'on entend, c'est des martinets ?
Oui, je pense qu'il y a des martinets. J'ai dû voir un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on commence à se sensibiliser et à observer tout ce qui nous entoure, qu'on arrive à se poser dans notre vie trépidante, hein, bah, ça nous fait aussi du bien déjà d'observer ce qui nous entoure. Hein. Mais en même temps, voilà, on observe tout ça quoi, et on prend du plaisir. Hein, et on le respecte, ce vivant.
Par exemple, je pensais par exemple entendre des hirondelles, mais c'est quoi la différence entre quelle est la particularité des martinets, par exemple ?
Alors le martinet, oui, bah tu connais ça.
Non, pas spécialement, mais bon, les martinets présentent la particularité de, on a l'impression qu'ils se posent jamais, qu'ils volent toujours en bande. Et bon, moi, j'en ai pas encore observé. Ils arrivent souvent tard. C'est selon les migrateurs. En général, ceux qui arrivent les premiers partent les derniers. Et ceux qui arrivent les derniers partent les premiers. Donc, les martinets, on les voit arriver assez tard. Et bah, au mois d'août, début août, bien souvent. Après, ça dépend aussi un petit peu des endroits où on se trouve. Donc, il y a des. Et sinon, pour des oiseaux comme les hirondelles, notamment. Sont des insectivores, donc si on détruit le bocage où il y a beaucoup d'insectes qui vivent, bien on va aussi indirectement détruire finalement le milieu de vie de l'hirondelle ou d'un autre insectivore. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de faire le lien entre. Bah, y a des lieux de nidification, mais pour parler des oiseaux ou d'autres animaux, c'est pas là où ils nichent, c'est pas là où forcément ils se nourrissent. Donc il faut bien comprendre, vous évoquiez la notion d'écosystème, en fait, même de multi-écosystèmes qui sont en interaction entre eux. Et si on détruit, on a évoqué la forêt, la forêt, si on la détruit, on va avoir une répercussion sur tout le reste et vice-versa. On détruit des haies, on va empêcher à terme des oiseaux comme les hirondelles de nidifier. Donc c'est tout, c'est ça qui est un petit peu difficile dans la notion de biodiversité. Et malheureusement, à cause, c'est pas forcément de leur faute, mais... par souci des fois de simplification, on réduit la biodiversité à simplement le voir des espèces. Mais la biodiversité, c'est non seulement la diversité biologique, c'est la diversité des écosystèmes et des fonctions écosystémiques qu'il y a dans l'écosystème et la diversité génétique. Donc ça veut dire aussi que quand on parle de biodiversité, bien on peut parler aussi de races bovines, comme on voit maintenant à la sortie de Saint-Sulpice. Par exemple, il y a des vaches des Highlands hein, qui sont, je pense que c'est lié au programme de restauration du ruisseau hein, qui a été reméandré, la restauration de zones humides. Donc tout ça, c'est lié, on peut le lier avec les hirondelles aussi du bourg. Tout est interdépendant. Et nous aussi, en fait, on fait partie de l'écosystème, même si on ne s'en rend pas compte, en fait, malheureusement. Enfin, pas pour tout le monde, il ne faut pas généraliser non plus.
Merci. Est-ce qu'on peut parler un peu de bois et de la. Tu parlais tout à l'heure, François, de la conscience d'où vient le bois quand tu construis. Parce que toi, tu construis ici à Saint-Sulpice-la-Forêt, tu construis un kiosque. Est-ce que tu peux nous parler de la chaîne du bois, du matériau avec lequel tu construis ici ?
Et déjà, pour faire un lien en amont, parce qu'on parlait du lien à la biodiversité, etc., clairement, moi, je suis en négociation permanente avec les écosystèmes, en fait. Parce que le bois, donc, on va parler ressources et filières. En fait, si on prend la filière industrielle, c'est un petit peu un autre délire. Nous, le but, c'est quand même, on est dans des notions de cueillette et de glanage. C'est-à-dire qu'on va prendre des petites quantités réparties sur un territoire qui est assez grand pour faire une sélection. Voilà, on n'ouvre pas franchement les milieux. Après notre intervention de prélèvement, c'est quasi invisible. En tout cas, dans les deux ans qui suivent, on ne voit plus rien, etc., etc. Et par contre, factuellement, à chaque fois que j'arrive dans une parcelle, dans un lieu de prélèvement, il va falloir que je négocie déjà, savoir s'il y a des oiseaux, souvent plus des oiseaux, ou alors des chiroptères, des choses comme ça, dans l'arbre. Donc déjà, c'est détecter ça, il y a cette première négociation. Ensuite,
chiroptères, tu peux juste préciser chiroptères
Des chauves-souris, oui. En tout genre. Mais voilà, c'est des lieux d'habitat, clairement, ces arbres, assez souvent. Donc déjà, vérifier que pour une poutre, on ne va pas sacrifier des habitats singuliers ou pluriels qui ont une autre valeur et qui méritent d'être considérés. Ensuite, comme on a des chantiers qui soient à la fois ici, mais en amont aussi, en forêt ou dans les milieux qui sont plutôt longs et assez discrets, il va falloir négocier avec des animaux qui sont territoriaux, comme le chevreuil. C'est un compagnon de forêt que j'ai très souvent. Il ne fait pas beaucoup de bruit, il déboule devant nous, il est perturbé dans ses trajectoires. C'est un animal qui est très casanier. Quand on est plusieurs temps sur une parcelle, ben on va finir par savoir qu'on est là et ça l'emmerde. Il déboule, il aboie, il part, il revient. Donc, quand j'étais en montagne, c'était avec les chamois, il y avait ces choses-là. Et puis après, encore une fois, on déplace les bois, etc. On est sur des processus assez longs. Sous l'écorce, c'est hallucinant à chaque fois les écosystèmes qui se mettent en place. Enfin, à chaque fois, moi, j'ai l'impression de faire des génocides, quoi. Et là, il y a des fourmilières qui s'installent en deux secondes, il y a des gendarmes, il y a des milliers de bestioles qui s'installent très, très rapidement. Quand on est dans des processus comme ça, on se dit, en fait, je ne vais pas non plus les massacrer. Alors, j'ai des petites stratégies pour leur laisser des délais de déménagement, mais ça, c'est une réalité qui est quotidienne et qui, pour moi, n'est pas anecdotique, qui est réelle. Sur des tas de bois que je vais laisser un peu longtemps, c'est des petits rongeurs ou des salamandres que tu évoquais. J'en ai vu à certains endroits qui se mettent en plein hiver. Quand on bouge un tas de bois et que la salamandre est un peu engourdie, qu'elle bouge, voilà. Tout ça, c'est vraiment la réalité quotidienne que j'ai liée au monde plutôt animal, en l'occurrence. C'est ça.
Tu négocies.
Je négocie, c'est la négociation carrément. Voilà. Et quoi que je fasse, c'est à la fois très rapidement vertueux, dans le sens que dès que je laisse quelque chose en place, ça s'installe directement. Dès que je rebouge, je bouscule les équilibres. Alors après, du coup, le troisième compère qui va arriver, c'est le rouge-gorge. J'ai des rouges-gorges systématiquement avec moi. Parce que dès qu'on bouge le sol ou l'écorce, etc., on met à nu de la nourriture. Et sur tous mes chantiers, j'ai des rouges-gorges qui squattent autour parce que je leur donne à manger. Mais on est toujours, même sur un truc aussi petit, anecdotique, un chantier, à une petite échelle comme ceux que je pratique, il y a déjà toutes ces choses-là qui se passent au quotidien, quoi. Voilà. Et pour finir quand même, parce que c'est pas si ce qui est bien, c'est quand je reviens plus tard, la faune globalement pâtit énormément d'un habitat qui est très aseptisé et très lisse, qui manque d'accroche, notamment tout ce qui est lié à la nidification. Il n'y a plus d'infractuosité, il n'y a plus de lieu pour s'accrocher, pour créer un nid, pour aller se cacher, etc. Le bâti ancien là-dessus, c'est l'antithèse. Au contraire, c'est vraiment des super niches de biodiversité. La manière dont on pratique avec nos matériaux, et en fait, il y a beaucoup de rugosité. Il y a des textures, il y a des surfaces, il y a des accroches, il y a des aspérités, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment super souvent que je vois qu'il y a des choses qui sont installées. Et tu parlais, je finis là-dessus, mais vouloir faire des tours à hirondelles dans lesquelles on dit bon, on va mettre des hirondelles là, on va faire une tour pour les hirondelles. En vrai, ça marche à peu près une fois sur dix dans le meilleur des cas, quoi. Juste, on crée des possibilités, on crée des opportunités. Il y a des choses qui dépassent, il y a du couvert, il y a des... Et bien en fait, ça va s'installer tout seul et s'installera qui veut venir, en fait. Il ne faut pas, peut-être pas toujours trop théoriser ces choses-là, mais ça marche.
Par rapport au projet de kiosque, parce que ça s'est fait avec des dessins des habitants et habitantes, comment est-ce que c'est pensé, ça, la possibilité que des espèces viennent... Là, dans ce bâti-là.
C'est pensé. Enfin, c'est juste encore une fois, c'est la manière de construire, c'est le mode constructif qui va offrir des opportunités. C'est pas plus pensé que ça, en fait, quoi. Parce qu'en fait, ça va se faire. Si ça doit se faire, ça se fera spontanément, comme ça se faisait dans les vieilles granges ou les vieilles maisons. Il y a des possibles. C'est pas un crépilis, c'est pas une sous-face en PVC, c'est pas un refus, c'est pas de l'ardoise trop lisse non plus. Donc en fait, les matériaux propices sont là. J'ai vu que ça marchait très bien le pignon avec carrément un nid qui a été incrusté dans la maçonnerie. C'est quelque chose d'assez inspirant qu'on peut répliquer. Il est occupé actuellement, c'est très bien. Enfin voilà, c'est pas besoin d'être plus réfléchi que ça en fait. Moi je m'intéresse à zoomer un peu pour comprendre un peu plus particulièrement quelles sont les spécificités et les demandes particulières de telle ou telle espèce, par curiosité ou pour d'autres projets qui sont un peu plus ciblés. Mais après, juste utilisons des matériaux pas trop débiles, construisons avec des reliefs et puis ça se fait quoi.
C'est vrai que quand on rénove du bâti, il faut vraiment penser, est-ce qu'on ne va pas détruire l'opportunité, la possibilité d'oiseaux divers et variés de pouvoir s'implanter, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et en prendre conscience.
Et je me demande, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait un peu de zones humides. Enfin, en tout cas, j'ai entendu parler de zones humides sur la commune de Saint-Sulpice. Comment est-ce que c'est préservé? Quels habitats sacrés pour le vivant? Quel vivant? Quelle est la richesse de ces milieux-là?
Ben, de façon générale, les zones humides, oui, sont des milieux qui abritent une riche biodiversité, hein, que ce soit, on parle beaucoup des oiseaux, bon, c'est très visible, on a évoqué les chiroptères, dont on prend conscience de l'importance depuis quelques années, donc c'est... Il y a beaucoup d'insectes, enfin, il y a de tout dans les zones humides. Et puis il y a les fonctions, évidemment, dont on entend parler quand il y a des... problème d'inondation. On sait qu'elles ont été beaucoup détruites. Hein. Malheureusement, elles continuent d'être détruites. Bon, on peut se féliciter que la commune ait favorisé la restauration, hein, des zones humides du petit ruisseau, même si ce ne sont pas des grandes zones humides. Quelle que soit leur taille, elles sont importantes, hein, pour le maintien de la biodiversité, hein, de façon générale. Alors après, savoir si elles sont plus riches que d'autres milieux, moi je ne ferai pas cette distinction. Je considère que, bon, pour avoir travaillé sur différents écosystèmes, emmener des étudiants en forêt ou du point de vue de mon pôle de recherche sur les tourbières, il faut tout prendre en compte, en fait, parce que les zones humides, on peut s'intéresser à elles spécifiquement, mais à côté, il y a d'autres écosystèmes et il y a aussi il y a les zones de transition dont on oublie un peu l'importance, alors que il y a des gradients de richesse spécifiques, il y a des gradients au niveau du sol, etc. Donc certes, vous avez raison d'insister sur de parler des zones humides. Ce sont des zones très riches. Elles ont été beaucoup détruites, hein, partout, hein, pas qu'en France, partout dans le monde. C'est un peu comme le bocage. Hein, on continue, j'ai lu, je crois que c'était l'an dernier, un article dans Ouest-France. Hein, on continue de détruire plus de lignes de haies qu'on en reconstruit. Hein, donc c'est catastrophique. Donc c'est un peu, malheureusement... les zones humides sont aussi détruites et continuent d'être détruites, comme les haies, hein, même alors qu'on en parle. Vous avez raison de souligner l'importance de ces zones humides qui sont effectivement très riches, à la fois en fonction biodiversité, on a évoqué, mais aussi fonction pour les hommes, hein, régulation des inondations, etc. On a beaucoup parlé l'an dernier avec les inondations dans le nord de la France. Il y a une vingtaine d'années, j'avais travaillé dans le nord de la France et sur certaines communes, le dernier arbre existant, les locaux voulaient les abattre, en fait. Et puis bon, voilà le résultat, hein, on a tout abattu. Et alors il n'y a pas que l'événement catastrophique en lui-même, ça malheureusement on le contrôlera jamais, mais le facteur humain d'artificialisation des milieux, accentue fortement ces catastrophes, ces phénomènes catastrophiques.
Je parlais de milieux humides, mais en fait, depuis ce matin, depuis hier, ici, on parle de projets d'urbanisation. Et y a à penser dans ce projet-là, et je pense que c'est pensé ici, c'est les trams écologiques. Peut-être que vous pouvez nous en parler, et puis de parler de comment est-ce que Saint-Sulpice se projette par rapport à ça aussi dans le projet... urbanistique, si vous savez.
Disons que oui, voilà, la restauration, le reméandrage du ruisseau, c'est typiquement la trame bleue, la trame verte. On développe maintenant ce qu'on parle de trame noire par rapport à aux lumières la nuit. Bon, à Saint-Sulpice, moi, je suis ici depuis 2013. Bon, j'ai, sauf erreur, hein, il a toujours, les lumières sont éteintes tôt, à 22h. Bon, il y a des communes, pour avoir fait partie d'un comité là, sur Meulesse. Bon, les gens sont plutôt opposés à ce qui est extinction des feux, même à 11h ou minuit. Donc, bon, selon les quartiers aussi, certainement. Mais donc oui, il y a ces trames, ces corridors qui ont leur importance effectivement dans le déplacement des animaux, y compris des plantes aussi, hein, on en parle moins, mais le portage des graines, alors si ça se fait par les oiseaux ou par le vent ou peu importe, hein, il y a aussi toutes ces connexions en fait, hein, qui sont à maintenir. Hein, pour maintenir les fonctionnalités des écosystèmes.
Et on pensait peut-être avoir Claude avec nous, mais il n'est pas là. Mais peut-être que vous pouvez parler, vous aussi, de Boule-Épic, de ce qui se passe par rapport au hérisson, et peut-être en quoi cette espèce est symbolique, peut-être ici, à Saint-Sulpice.
Au même titre que les hirondelles, c'est vraiment une espèce menacée. Hein. Elle disparaît de plus en plus, vu la circulation sur les routes, vu toutes les protections qui ne sont pas mises en place, parce que c'est un animal très vulnérable, hein, très fragile, qui sort la nuit, qui est exposé à plein de problèmes. Hein. Il y a les pesticides. Tout ça fait que c'est vraiment une espèce qui est en voie de disparition. Et là, Claude, avec son association La Boule-Épic, milite à fond, hein, sur ce sujet, protège. Ils sont même centres de soins homologués. Donc voilà, régulièrement maintenant, les Sulpiciens sont très au parfum, très au courant de leur dynamique. Hein, et donc, il y a des appels. On en a encore eu un la semaine dernière. J'ai trouvé un petit hérisson qui n'était pas bien, pas en forme. Il a réussi à le sauver, quoi. Voilà. Il était intervenu au bon moment. Le hérisson était juste un tout petit peu blessé. Un petit soin, puis ça l'a fait. Parce que ça va très vite quand un hérisson est blessé. En 48 heures, 72 heures, ça y est. Là, l'hérisson peut être infecté avec des mouches et tout. Et ça va très vite. Donc, il faut intervenir très, très tôt. Donc, les Sulpiciens sont très informés sur le sujet, quoi. Il fait beaucoup de relâchés de hérissons, voilà, il les soigne, hein. Il récupère des hérissons de quelques grammes, ils nourrissent au biberon, à la seringue. C'est énorme ce qu'ils font. Énorme.
C'est chouette, ça donne des idées de... On pensait tout à l'heure aux nouveaux métiers ou les métiers d'avenir qui pourraient s'installer ici à Saint-Sulpice. Donc, il y a nourrice pour hérissons, voilà. Si j'ai compris aussi, on pourrait, du coup, pour la biodiversité, on fait traîner plein de tas de bois. Le mieux, si on les laisse, voilà, ça fait venir du monde. On refait des zones humides et plein d'infractuosités dans les habitats pour que, en fait, ça puisse donner envie, possiblement, de devenir des nids, des endroits où... Voilà.
Oui, non, je fais partie depuis peu là, en tant refuge LPO, et comme je vous disais, bon, quand on totalise la surface des refuges LPO, c'est énorme en kilomètres carrés, hein, c'est vraiment des espaces protégés, parce qu'on a 15 éco-gestes, hein, dans nos refuges qu'on se doit de mettre en place pour effectivement préserver tout le vivant, quoi. Et donc là, c'est plein de choses, comme tu viens de dire, des petits tas de bois, des tas de pierres, une petite mare, des haies, de la biodiversité, des plantations, de quoi nourrir les oiseaux. Voilà, des choses où il y a du vivant, quoi, à fond la caisse. Et ça, faut qu'on préserve ça. L'humain, ok, mais il y a tout ce qui nous entoure. Il faut qu'on en prenne bien conscience.
Oui, et que du coup qu'on transmette, parce que c'est un changement de regard, même sur ce qui est beau ou pas beau, ou nous, ce qu'on trouve agréable. C'est-à-dire, au lieu de se dire, bon, ce gazon, il faut qu'il soit bien coupé, en fait, non, il y a plein de possibilités, mais c'est un changement de regard. Comment vous...
Il faut savoir que quand on tond un gazon, on détruit plein de vivants. Il y a plein d'insectes, plein de choses qui vivent. Et donc maintenant, on fait ce qu'on appelle de la gestion différenciée. On ne tond plus de façon très rase les gazons. On laisse des espaces vivre leur vie. Moi, il y a des endroits dans ma petite surface de gazon, je suis un an sans la couper. J'ai des herbes qui font 60, 80 cm et il y a plein d'insectes et ça vit là-dedans et on laisse vivre, quoi. Il ne faut plus tondre de façon trop brutale. Ne pas tailler non plus les choses. Là, maintenant, de plus en plus, le message est passé sur le fait, comme tu disais, en forêt, par rapport à tout ce qui peut vivre autour de nous, on ne doit plus tailler nos haies de mars à juillet, voire mi-août, pour justement respecter la nidification et tous les petits oiseaux et tout le vivant qui vient dans ces haies, quoi. Bon, si on intervient avec nos taillets et tout ce qu'on veut, bon, on va tout détruire, quoi.
J'aimerais revenir à la construction bois avec François. Sur ce kiosque-là, il y aura des moments participatifs, de ce que j'ai compris.
Oui, il y en aura cet après-midi, entre autres. Pour les gens qui veulent éplucher tant qu'il fait beau, c'est possible. Et après, oui, il faut qu'on mette tout ça en place dans les semaines qui viennent. Ouais. On n'est pas très en avance sur le programme, mais on peut faire ça. Ouais.
Et est-ce que c'est des moments de sensibilisation par rapport à la biodiversité aussi, ces moments de construction ou pas?
Bah ouais, dans la mesure où je dissocie pas le lieu de prélèvement de ce que je fais, la suite, etc. Forcément, ça vient sur les sujets, ça vient dans la discussion obligatoirement, quoi. Ouais. C'est pas programmé comme un chapitre parmi d'autres, mais c'est factuellement ça va arriver comme sujet, ouais, complètement. Ouais. Et par contre, ce que je pourrais dire sur les lieux, peut-être apprenons à cohabiter, hein, arrêter de dissocier systématiquement. Peut-être que des fois, c'est bien de laisser une zone entre guillemets en réserve intégrale, etc., etc. Mais il y a aussi tout cet enjeu à arrêter de zoner et de dire zone de production, zone de protection, zone de etc., etc. Et je le vois en forêt, c'est très préjudiciable. Ça fait un peuplement en timbre-poste, ce qu'on appelle, et avec des zones qui sont plantées en ligne, des zones qui sont laissées, des zones, etc. La négociation que j'évoquais tout à l'heure dans ma pratique, en fait, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu quand on est dans des logiques pré-industrielles et un peu moins productivistes. C'est intéressant de s'y confronter. Déjà, on prend conscience d'eux. À ces petites échelles, on peut être beaucoup plus efficace dans des actions de j'attends un jour ou deux, ou je prends telle saison, pas telle autre, etc. Chose qui n'est pas possible dès qu'on va parler d'industrie et de massification des réponses. Et puis, par contre, tous ces lieux pluriels, y compris les zones humides, on a oublié, mais c'est des lieux de production pour une ressource dont on pourrait avoir l'usage qui est hyper intéressante. Et donc du coup, ça a été par la massification de la production et l'ultra-localisation, l'ultra-spécification d'unités de production de matériaux très industriels à certains endroits. Ces zones-là ont été délaissées, ont perdu leurs usages humains et ce qu'elles pouvaient apporter en matériaux. Une zone humide, c'est du roseau potentiellement. Le roseau, c'est du chaume. On le met sur nos toits, super. Si on arrive à avoir plusieurs lieux de production comme ça en local, avec des milieux qui, de toute façon, va falloir maintenir ouverts si on veut garder une certaine biodiversité, on a à la fois une ressource pour l'humain et un lieu naturel qu'on peut entretenir de manière intelligente et sans préjudice. Donc là, par contre, les haies, c'est pareil. Les haies, super lieu de production. La forêt en Bretagne, c'est une des régions les moins forestières de France. La haie, avant, palliait à ce déficit arboré, parce que c'est une espèce de super forêt en linéaire, le bocage. Aujourd'hui, on voit dans quel état il était, mais le bois d'œuvre venait du bocage. Donc ça a des vertus paysagères, ça a des vertus environnementales plurielles, et ça peut tout à fait en plus nous donner ce dont on a besoin en termes de bois d'œuvre et de bois d'énergie. Moi je suis vraiment pour recréer un lien dans ces micro-milieux entre l'humain et le vivant pluriel, dans une idée qu'on peut harmoniser tout ça au lieu de toujours être dans l'opposition et au détriment de quoi.
Qu'est-ce qui se passe dans l'opposition ?
Dans l'opposition, on fait des choix soit radicaux, soit, encore une fois, on va zoner. Donc, du coup, on dévoue complètement une zone à une fonctionnalité.
Et qu'est-ce que ça crée sur l'écosystème et
sur
la
l'écosystème.
Biodiversité.
Et ben justement, alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, on reparle de la forêt, on est dans une société qui aime bien le chiffre. La moyenne nationale, c'est un tiers du territoire qui est couvert par de la forêt. Et parmi les gens qui vont s'en enorgueillir, c'est des gens qui sont au gouvernement ou l'ONF, etc. Qu'est-ce que c'est la définition de forêt? Est-ce que c'est plein d'arbres? Est-ce que ça suffit? Est-ce que une plantation monospécifique de Douglas, c'est une forêt? Est-ce que... Bon, voilà, toutes ces questions-là vont s'ouvrir. C'est très complexe. Mais... C'était quoi la question? Je suis parti dans mon idée de tiers.
Dans l'opposition, qu'est-ce qui
se
passe?
Oui, l'opposition, c'est ça. Et du coup, on va voir ça. Mais alors, il y a une question de qualité. Dans l'opposition, c'est de dire... Alors, il y a plein de gens qui sont intéressés aujourd'hui dans nos sociétés par la forêt pour des raisons différentes. La chasse, la randonnée, la production de bois, l'esthétique, etc. Si on oppose, on va donner un os à ronger à chacun et on va se retrouver avec un truc qui est un peu en patchwork. On va créer des rideaux assez jolis pour les promeneurs qui restent sur les chemins. On va créer des zones plutôt propices avec un trou d'eau pour ceux qui veulent chasser le sanglier. Et puis, derrière tous les rideaux, on va mettre du linéaire de résineux pour ceux qui veulent produire de la palette pleine balle. Je suis pas sûr que ce soit si harmonieux que ça. Alors qu'en fait, si on apprend à cohabiter par les compositions plutôt qu'opposition, on va peut-être se dire, en répartissant les charges un peu partout, on va réussir à produire en même temps qu'on va proposer des habitats propices pour la diversité, en même temps que ce sera joli et agréable à pratiquer, en même temps que. Voilà, je pense que c'est un petit peu plus équilibrant, quoi, globalement, quoi. Et plus pérenne. Parce que quand on est sur des usages monospécifiques, la forêt, c'est comme les champs. On voit bien la résilience d'une polyculture en petites parcelles comparée à la monoculture intensive. La monoculture intensive ne marche qu'avec des intrants et avec du chimique à l'appui. Sinon, dès qu'on arrête ça, ça ne fonctionne plus. Parce que la pathologie va trouver un terrain propice, parce que la tempête va pouvoir s'engouffrer, des choses comme ça. La forêt fonctionne exactement pareil. Donc l'opposition, pour moi, va un peu vers les cul-de-sac, quoi, plutôt globalement. Quoi.
Est-ce qu'on a déjà des exemples de manque de résilience des écosystèmes par rapport à ce qu'on en fait ?
De répondre ou de comprendre exactement est-ce ce que tu veux dire, mais
comment est-ce que c'est déjà dérégulé en fait ?
Je pense qu'il suffit de se balader dans la campagne pour voir comment c'est dérégulé. Hein.
Mais quand c'est difficile de le voir en fait quand. Il y a un enjeu pour certaines générations ou pour des personnes qui n'ont pas vu le vivant depuis petit ou qui ne l'ont pas remarqué, de voir les différences entre il y a 20 ans. En fait, de percevoir que le vivant est moins là. Parce que justement, on se met à le regarder à un moment et à le regarder différemment, mais on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, il est rare, et on le voit maintenant, mais en fait, il y en avait tellement plus avant, tellement plein avant.
Ah oui, mais tu dis tellement plus avant, parce qu'effectivement, tu as suffisamment de recul. Je pense que là, il y a tout le travail d'éducation hein, des jeunes générations. Donc, dans tous les domaines, hein, ça, par rapport à la protection de l'environnement, ou prendre conscience de la richesse des milieux ou du lien qu'on a avec la nature, même si on l'a oublié, c'est par l'éducation. Et bon, dans Saint-Sulpice, hein, moi j'ai des petits voisins qui ont 10 ans et ils connaissent plein de choses. Hein, et bon, c'est pas le cas de tous les enfants, mais je crois qu'à l'école, il y a quand même des des enseignements, même on peut toujours dire que c'est peut-être pas assez, il y en a peut-être pas assez, mais il faut leur apprendre. C'est vrai que tu as raison, moi, si je prends la route, je vais à Chevenier, je vois des parcelles, je me dis tiens là, il y a des haies qui devraient être là, on les a abattues alors que même si on comprend bien le fait que la mécanisation fait qu'on ait agrandi des parcelles, il y a des endroits où on voit très bien où on a détruit l'arbre pour détruire l'arbre, en fait. Hein, c'est pas autre chose, hein, je le dis crûment, mais de mon point de vue, voilà. Donc, bon, y a, au niveau du département, hein, je ne suis pas breton et je suis arrivé... donc il y a quelques années, mais je crois que le département d'Ille-et-Vilaine a été assez précurseur quand même dans la subvention de replantation des... Alors c'est simplement des aides et c'est sur le volontariat. Hein. Donc après, en termes de résultats, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, peut-être tu es un peu plus donc pour revenir au fait de voir l'évolution du paysage, des systèmes, pour les plus jeunes, voilà, c'est de l'éducation à l'environnement, hein, qu'il faut faire. Et puis pour les plus âgés, je sais pas, essayer de trouver des techniques de réminiscence. Quand vous étiez gamin, c'était comment? Ça a changé, enfin je sais pas. Après là, c'est peut-être de la sociologie de l'environnement qui permettrait des gens de nos générations ou de la mienne de dire finalement il y a des choses qui ont disparu et est-ce qu'on avait vraiment besoin de les faire disparaître, quoi.
Tu veux réagir, François, par rapport au
haies ? L'éducation, en fait, elle ne devrait pas être limitée à une tranche d'âge. Je crois qu'on peut s'éduquer toute sa vie. Après, dans ce que tu évoquais, l'éducation, là, je te rejoins là-dessus. Et après, dans ce que toi, tu évoques aussi, c'est comment on peut l'appréhender. Je crois qu'il y a la notion d'expérience, parce que sinon, ça reste quelque chose de désincarné, de théorique. Et ça ne peut se faire, de mon point de vue, que par une temporalité un petit peu longue dans une localité où, à son échelle, on est capable de constater, en fait, quoi. Ça, c'est pas évident. Et c'est sûr que plus tu es distant de ça, et l'éducation viendra en aide à avoir un regard, en fait, quoi, et une écoute. Voilà, pour les haies, alors le mot plantation, je m'en méfie beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas contre, mais c'est typique la rhétorique macroniste de dire on va planter un milliard d'arbres, tout ça, etc. Arrêtons déjà de couper. Les subventions pour aider à planter les haies, c'est bien, ça a le mérite d'exister. Je connais aussi des parcelles où l'agriculteur désingue sa haie de manière hors la loi d'un côté et touche des subs de l'autre côté pour replanter en linéaire des arbres. Alors, il faut voir un petit peu ça. Je l'ai vu en direct. Et puis après, moi, je suis aussi pour considérer les contraintes de ces gens-là, qui sont notamment économiques. La haie, à la base, on est en Ille-et-Vilaine, parlons-en, c'est vraiment un haut lieu de la haie. Et notamment, qui fournissait du fourrage, qui fournissait de la nourriture, du bois de chauffe et du bois d'œuvre. Elle était entretenue parce que, bah, précisément, elle offrait ces services-là aux humains. Si, à terme, on n'a pas de service, on aura une dépense, on aura une contrainte, mais on n'aura pas de motivation et on n'aura pas de débouché. Et aujourd'hui, pour moi, il y a vraiment un énorme enjeu à redéfinir la haie de manière contemporaine. Prenons exemple sur le passé, qu'est-ce que c'était ces usages divers qu'elle remplissait ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pourrait remplir pour un usage ? Et aussi, également, qu'est-ce qu'elle peut offrir comme bénéfice pour la personne qui va lui donner du temps, en fait ? Et là-dessus, les principes de plantation, c'est cool, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, comme disait un pote, en fait, on va créer du maquis en linéaire. C'est pas de la forêt, c'est du maquis. Donc déjà, ça va être limité au niveau esthétique, ça va être limité au niveau biodive, et au niveau débouché, notamment en bois d'œuvre, bois feu, etc., ça va être très limité aussi. Et cet accompagnement-là, aujourd'hui, pour moi, il fait assez cruellement défaut. On rejoint les notions d'agroforesterie. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu dans chaque localité à essayer de déterminer des modèles de haies qui remplissent ces usages-là et qui, économiquement, est un schéma qui soit aussi un peu plus viable, un peu plus pérenne, parce qu'on voit qu'en fait, il faut vraiment être un peu Don Quichotte aujourd'hui pour se coller en tant qu'agriculteur à replanter et entretenir une haie qui n'a pas beaucoup d'autres vertus que de satisfaire à des attentes et des envies écologiques, quoi, en fait. Quoi.
Moi, j'ai entendu un gimmick. Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu peux reprendre depuis
une haie, mais il a tout à fait raison. Moi j'évoquais l'historique par rapport à la volonté il y a 30 ans maintenant du conseil du CG35 pour essayer de reconstituer des haies, mais une vraie haie, quoi, avec ses fonctions. Une haie, c'est pas simplement planter un alignement d'une espèce qui en plus, parfois, là, qui serait en plus des espèces qui ne seraient pas locales, en plus. Donc, ouais, une haie, c'est une haie. Dans la haie, il y a la notion de strate de l'herbacée à l'arborée, en passant par l'arbustive. Il y a la notion de diversité, une haie monospécifique, plurispécifique, etc. Donc c'est ça que j'appelle une haie. Hein. Et je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis par rapport à la production. Ça servait à quoi, une haie? Mais là encore, avec la haie, on a un bon exemple d'une bonne entente, si je puis dire, entre l'exploitant et le service rendu par la nature, dont on parle maintenant, hein, on parle à tout craint avec des termes de service écosystémique ou autre, mais bon, on faisait du service écosystémique avant sans l'appeler comme ça. Bon, après, on peut toujours... On peut toujours donner des noms pour bien préciser les choses. Mais effectivement, la haie, c'est un écosystème à part entière.
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses précisions, informations. On sent bien que, ouais, comme tu dis, tout au long de la vie, on continue à s'éduquer. Que peut-être les enfants qui grandissent à Saint-Sulpice-la-Forêt vont nous apprendre des choses aussi, ou nous réapprendre des choses qu'on avait oubliées.
Je trouve que globalement, c'est vers eux qu'il faut aller, hein, vers les enfants, c'est eux notre relève. Il n'y a pas photo là-dessus, hein, c'est qu'on aille vers eux, qu'on les fasse sortir un petit peu de leurs écrans, là, et sortir, prendre l'air et observer ce qui les entoure.
Et apprécier. Prendre plaisir à observer tout ce vivant aussi.
Bon, bah, merci.
Merci beaucoup. Bon après-midi. On vous retrouve, on peut discuter avec vous.
Donc il y a des choses qui se passent au kiosque ?
Oui, vous pouvez venir à l'espace bois tant qu'il ne pleut pas. Vous aurez des outils, vous d'ailleurs tirer de l'écorce, embêter les gendarmes, voir les fourmis, tout ça. Et puis préparer les futurs piliers de la petite halle. C'est plutôt une petite halle qu'un kiosque, en fait, quoi. Voilà, vous êtes les bienvenus.
Merci.
Merci.
Ou avoir des choses sur radio. Check ça.
Radio.